C'est Platon Malin sur RCN, Margot Gross.
À tous, vous êtes sur RCN et vous écoutez Fais Platon Malin, votre émission consacrée à la philosophie et au cinéma que j'animerai maintenant un jeudi sur deux de 14h à 14h30. Et aujourd'hui, on est avec Rémi Roth, professeur de philosophie à Épinal et TikToker. On va parler du film de science-fiction Time Out, sorti en 2011 et réalisé par Andrew Niccol.
RCN Fais Platon Malin, Margot Gross.
Salut Rémi, comment ça va ?
Salut, ça va très bien et toi ?
Super. Aujourd'hui, tu inaugures un petit peu cette émission Fais Platon Malin, puisque c'est la première émission de cette saison.
C'est un honneur, merci. Étant donné que j'adore le cinéma, c'est une bonne opportunité également pour moi.
C'est super. Pour commencer, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs un peu le pitch du film Time Out ? Si tu devais résumer ça en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais ?
Alors Time Out, c'est un film de science-fiction qui se passe dans quelques décennies, puisque c'est en 2070. C'est un monde dans lequel il n'y a plus aucun système monétaire et la seule monnaie qui existe, c'est le temps. Donc chaque individu a sur son bras le temps qui lui reste à vivre. À partir de 25 ans, les individus ne vieillissent plus, mais ils vivent avec un an de monnaie et ils doivent en gagner par le travail, par les jeux, etc.
Donc, tu as regardé ce film avant de préparer cette émission ou est-ce que tu connaissais ce film ?
Alors, je l'avais déjà vu, mais il y a quelques années. Donc, je me le suis remis un peu en tête pour préparer l'émission. Mais c'est un film qui est très intéressant pour moi parce que, d'un point de vue philosophique, ne serait-ce que dans le titre Time, il y a plein de pistes qu'on va évoquer ensemble et je pense que ça va être intéressant.
Donc, tu as redécouvert un petit peu ce film ?
Ouais, c'est ça.
Time Out, on le rappelle, c'est un film qui met beaucoup en avant l'opposition des riches et des pauvres. Les riches sont très sereins puisqu'ils ont beaucoup de temps pour survivre, alors que les plus défavorisés sont obligés, eux, de courir pour trouver à tout prix du temps et pouvoir échapper à la mort. Le temps, c'est véritablement compté dans le film. Alors justement, je crois que Bergson a travaillé justement sur cette notion du temps qui est très présente dans Time Out. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Alors là, ça va être... Oh, vous me chauffez sur des auteurs très complexes. Bergson, en toute sincérité, ça va être très difficile de l'expliquer en si peu de temps. La pensée de Bergson, je vais être honnête avec vous, je ne la maîtrise pas assez pour pouvoir l'évoquer avec vous sur ce film. Il y a plein d'autres auteurs qu'on peut évoquer si c'est,
tu peux
si
en
c'est
parler,
l'idée. Ouais. En fait, ce film, tu viens de le dire, il y a vraiment une séparation entre d'un côté les quartiers ghetto et d'un côté les quartiers riches, parce que finalement, il y a plusieurs zones dans le film, des zones où on peut accéder uniquement lorsqu'on a un certain quota d'argent ou un certain quota de temps avec soi. Et en fait, cette différenciation entre les riches et les pauvres, alors il est difficile de ne pas sauter immédiatement sur les textes de Marx, notamment tout ce qui relève de la lutte des classes, en fait. L'idée de Marx est la suivante, et même d'Hegel, donc l'auteur qui a inspiré Marx en partie. Vous avez dans le système commun de l'histoire une lutte des classes, c'est-à-dire à la fois des pauvres, à la fois des riches, et c'est par un mouvement perpétuel entre les deux, une lutte au sens, alors une lutte sociale, une lutte armée également, on verra ça après, notamment avec certains moments du film, que va se mettre en mouvement l'histoire de l'humanité. D'un côté, on a, comme tu l'as dit, des riches qui en fait n'ont pas à se soucier du temps. Finalement, ils ont suffisamment d'argent pour ne pas avoir à toujours regarder leurs bras. Et d'un autre côté, dans ce film, on a les plus pauvres qui sont effectivement obligés de courir. Il y a comme une culture du prolétariat, si on reprend un peu les textes de Marx, qui en fait s'installe, au sens où ils mangent vite, ils dorment peu, ils vont courir, ils vont aller à l'usine, ils vont gagner une journée de répit, et, etc., etc. Et au final, le personnage principal, si je peux un peu anticiper hein, pour montrer en quoi ça, comment ça s'articule, le personnage principal, lui, de son côté, va hériter par hasard d'une centaine d'années. Et au final, il va totalement, indépendamment de sa volonté, changer de classe, puisqu'il va partir du ghetto pour aller vivre dans la classe bourgeoise. Et c'est là que va s'installer justement un changement d'étape dans sa vie, une évolution dans le sens où il va pouvoir consommer beaucoup plus, etc. Mais tout en ayant quand même, et c'est ça qui est intéressant parce que ça rejoint l'idée de Marx, quand même un esprit de vengeance par rapport à cette classe plutôt riche.
Un esprit de vengeance qui est possible justement grâce au progrès, puisque c'est une histoire qui se passe bien des années après notre réalité à nous. Est-ce qu'il y a des auteurs, des penseurs justement qui se sont penchés sur la question du progrès, de la modernisation de notre société ?
La modernisation de la société, bah oui, effectivement, en fait, tout ce qui relève, alors ça dépend ce qu'on entend par progrès, est-ce que c'est juste l'évolution de l'histoire dans le temps, ou alors est-ce que c'est un progrès technique, technologique, c'est plutôt dans ce sens-là.
C'est plutôt ça, ouais.
Bah, justement, si on prend une fois de plus l'idée de Marx avec le développement de l'industrialisation, tout ce qui relève du capitalisme, et puis de l'industrialisation au sens où on va produire des objets en grande quantité qui vont permettre normalement, en fait, d'avoir un niveau de vie supérieur. C'est-à-dire, bon, à l'époque de Marx, c'est l'industrialisation. Même un peu après, on commence à développer, on va dire, des véhicules, etc. Donc, on va avoir des conditions de vie de meilleure qualité. Mais le problème étant, le revers de la médaille de cette évolution technique et de ce progrès, c'est toujours qui participe à l'élaboration, à la main-d'œuvre, en fait, à la production de ces objets qui, pour nous, nous semblent être du progrès. Si on prend l'exemple de Time Out, au final, dans le film, ceux qui vivent à Greenwich, donc la ville des riches, ceux qui ont plusieurs centaines, voire milliers d'années sur leurs bras, ils vivent dans des milieux avec des belles maisons, avec des belles voitures, etc. Mais au détriment de ceux qui vivent dans le ghetto, justement, et qui, en fait, ont un milieu de vie avec des conditions beaucoup plus désastreuses. C'est-à-dire, ils ont à peine de l'eau, ils n'ont pas forcément de véhicules pour se déplacer, etc. Donc, le progrès, en fait, là, dans ce film, et de façon générale, avec l'industrialisation de Marx, profite à ce qu'il appelle le bourgeois. C'est-à-dire celui qui, en fait, maintient l'économie, celui qui détient la main-d'œuvre et les usines.
Est-ce que c'est quelque part une dénonciation des dangers du progrès ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus évolué qu'à l'époque de Marx, c'est également une dénonciation, effectivement, puisque au final, on a dans ce film l'idée d'une destruction totale de tout ce qui relève de l'intensité de la vie. C'est-à-dire qu'ils sont tellement immortels que finalement, cette évolution technique, cette évolution technologique et même existentielle, parce que atteindre l'immortalité, c'est la cupidité de l'homme par excellence, on peut se demander si finalement elle n'a que des bienfaits. Dans l'immédiat, on pourrait se dire que oui, parce que c'est une quête sans fin, tout le monde voudrait avoir plus de temps, tout le monde voudrait pouvoir vivre plus longtemps, mais on se rend compte que dans ce monde-là, pour, en tout cas, bon, on va voir la fin du film peut-être après, mais pour ce qui relève des personnes qui vivent à Greenwich, donc qui ont des milliers d'années devant eux, finalement, ils ont des vies très banales, très simples, qui relèvent des plaisirs, qui relèvent des biens. Finalement, un monde pas si différent de celui qui existe aujourd'hui, avec la seule différence qu'ils pourront faire ça à l'infini. Est-ce que c'est, comment on pourrait dire ça, est-ce que c'est bien d'avoir un temps illimité, ou est-ce que, comme le personnage du début du film qui donne les 100 ans au personnage principal, est-ce que finalement on finirait pas par s'ennuyer, en fait ? Si on gagne du temps perpétuellement, si on va de plus en plus vite, est-ce que ça a encore de la saveur, est-ce que ça a encore de la valeur de profiter de l'instant, de vivre des expériences, sachant qu'on pourrait les faire dans 100 ans. C'est d'ailleurs une phrase du personnage principal de Will, qui est incarné par Justin Timberlake, où il dit à un moment donné, pourquoi je le ferai maintenant ? Je peux le faire dans 100 ans, étant donné que j'ai sur mon bras des centaines d'années.
Dans un instant, Rémi, tu restes avec nous sur RCN et on parlera d'autres thématiques qu'évoque ce film Time Out. Mais tout de suite, on écoute Roy Xop Forever.
Platon Malin sur RCN, Margot Gross.
C'était Roy Xop Forever à l'instant sur RCN. On est toujours avec Rémi Roth, professeur de philosophie certifié du CAPES. Il faut le dire.
C'est une bonne chose, oui.
Tu es venu aujourd'hui nous parler du film de science-fiction Time Out. On disait tout à l'heure que c'était notamment un film dans lequel la thématique du temps est très présente. Le thème du temps, justement, donc, il est relié à l'argent dans Time Out. Les personnages n'ont qu'un seul but, c'est justement de trouver du temps pour survivre. Comme dans la réalité, on pourrait trouver du temps, de l'argent pour survivre aussi. C'est un peu des airs d'allégorie de politique du capitalisme.
Oui, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire, d'ailleurs, il utilise le terme dans le film à un moment donné, l'antagoniste, on pourrait dire le méchant du film, celui qui dirige les banques, celui qui possède le temps des autres. Il le dit, c'est un darwinisme capitaliste, il dit. C'est-à-dire que l'idée de Darwin, c'est celle de la sélection naturelle, c'est-à-dire ceux qui ont le plus grand avantage dans un milieu, dans un environnement donné, vont survivre par rapport aux autres. Et en fait, ici, l'avantage, ce n'est pas un avantage en termes de capacité physique ou intellectuelle, c'est l'avantage de l'argent, en fait, c'est l'avantage du temps. Et ce qu'il veut dire par un darwinisme capitaliste, le capital, c'est l'accumulation des biens, l'accumulation ici du temps, de l'argent, c'est tout simplement le plus riche. Et celui qui doit persister, enfin qui doit perdurer, qui doit survivre, qui doit continuer de vivre, le plus pauvre, doit mourir. Et en fait, il y a presque même un choix un peu, enfin c'est pas une fatalité en soi, mais il y a un choix de la part de ceux qui sont riches de laisser volontairement mourir les pauvres. Parce que le film pose un problème également inhérent au fait que tout le monde puisse potentiellement devenir immortel. C'est, le méchant le dit, c'est un peu sa justification, c'est si tout le monde devient immortel, où va-t-on placer tous les gens ? Si on continue à faire des enfants, etc., surpopulation, tout le monde est immortel. Donc il y a presque dans son darwinisme capitaliste, il y a une justification du fait qu'à un moment donné, il y ait des gens qui doivent être supprimés au profit de ceux qui vont durer.
Alors le fait de vouloir toujours, à tout prix, chercher de l'argent, c'est un côté matérialiste. Il y a des penseurs, justement, comme je pense à Épicure, ce genre de penseurs de l'Antiquité qui se sont penchés sur la question du matérialisme.
Oui, effectivement. Alors, le matérialisme, comme son nom l'indique, hein, c'est tout simplement l'idée de ne se consacrer qu'à la matière. Épicure, en fait, il a ce qu'on appelle un hédonisme. C'est-à-dire, on va rechercher le bonheur. Ici, dans ce film, ça marche plutôt bien, cette idée. C'est-à-dire que ceux qui sont riches vont chercher le plaisir, le bonheur, et ils vont vouloir qu'il perdure toujours. Le matérialisme, il se manifeste également, comme on l'a dit avant, dans le fait d'acheter des biens, etc. Et puis, pour Épicure, en fait, alors, il faudrait préciser un petit point, parce que Épicure, en fait, souvent, on l'utilise aujourd'hui en tant qu'épicurien. On affirme « je suis épicurien ». Souvent, ce que ça veut dire, c'est « j'aime profiter de la vie, j'aime les bonnes choses, j'aime bien manger, j'aime bien boire, etc. » Alors, l'idée d'Épicure n'était pas exactement celle-ci. C'est-à-dire que Épicure vivait à l'extérieur de la ville, dans un jardin, où il profitait de la boisson, etc. Il faisait des fêtes, ok, bon, ça c'est classique de l'Antiquité. Mais en fait, ce que préconisait Épicure, c'était pas l'abondance et la cupidité. C'est-à-dire, c'était pas la recherche du plaisir au sens où il devrait être perpétuel et sans aucune limite. Épicure disait qu'on peut finalement se contenter de peu de choses, d'un point de vue matériel, et que ce peu de choses peut tout de même nous procurer du plaisir, du bonheur. On va prendre un exemple. Dans le film, à un moment donné, ils sont à un buffet, et puis il y a, je sais pas, des genres de caviar, etc., enfin, des mets assez chers. Ce que dirait Épicure, c'est pas manger tout, profiter, c'est très bon, etc. Épicure dirait, en fait, sur la table, il y a certainement des mets très bons, mais dans une quantité raisonnable, cela suffit à être heureux. Et c'est pour ça que souvent, il est nécessaire de réactualiser cette idée d'épicurisme. Parce que c'est un matérialisme au sens où Épicure, en fait, ne va chercher que, effectivement, le plaisir du corps, c'est un bien grand mot, mais le fait de ne pas se soucier des choses plutôt immatérielles, c'est-à-dire les dieux, etc., il va plutôt rester dans le monde concret, dans le monde qu'il peut toucher, qu'il peut voir, qu'il peut sentir. Et il va tout de même avoir une certaine morale. Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on peut consommer sans fin, le monde qui nous entoure.
Est-ce qu'on peut parler d'aliénation pour ces personnages dans ce film qui, du coup, n'ont qu'un seul but, c'est à tout prix de trouver de l'argent. Ils n'ont finalement que ça. C'est leur quotidien, en fait, finalement.
Oui, effectivement, l'aliénation, c'est une fois de plus une conception qu'a développée Marx. Hein. C'est-à-dire, vous avez des individus qui ne sont plus des personnes, ce sont des objets. En fait, s'aliéner, c'est se supprimer en tant que sujet, c'est se supprimer en tant que personne qui pense, en tant que personne qui a des envies, des désirs. Alors, ils ont l'envie de survivre, ils ont le désir de gagner du temps, mais en fait, ils n'ont que ça. Et que ça soit du côté du ghetto avec le prolétaire dans le film, qui en fait va sans arrêt être aliéné parce qu'il doit travailler, et il y a des scènes très explicites hein, où le personnage principal va à l'usine, voilà, et il gagne 2 heures de vie, 2 jours de vie, etc. Donc en fait, il n'a pas le choix que de mettre son corps au service de l'industrie pour survivre. Et que ce soit également une aliénation du côté de ceux qui, finalement, ont la richesse. Parce qu'ils sont aliénés par leurs propres désirs, leurs propres pulsions. Ils ne recherchent que le jeu. Il y a beaucoup de scènes, il y a la thématique du jeu qui est très importante dans le film. Que ce soit dans le ghetto où le jeu, c'est une sorte de bras de fer qui permet de gagner du temps, ou le jeu dans le monde riche qui est le poker, les jeux de casino pour une fois de plus gagner du temps. Finalement, tous les personnages à l'échelle à laquelle ils sont dans le film semblent être aliénés d'une manière ou d'une autre.
Je vous propose de continuer en musique avec Switchfoot, The War Inside. Put your hands up, open wide. Put your hands up side by side. Age don't matter, like race don't matter, like place don't matter, like what's inside. Let the kick drum kick one time. Breathe out, let your mind unwind. Eyes on the ceiling, looking for the feeling. Wide open, let your own eyes shine. Yeah, it's where the fight begins. Yeah, underneath the skin. Beneath these hopes and where we've been. Every fight comes from the fight within.
I'm
C'est Platon Malin sur RCN, Margot Gross.
C'était Switchfoot à l'instant sur RCN. On est toujours avec Rémi Roth, professeur de philosophie et TikToker. Et aujourd'hui, tu es venu nous parler du film Time Out pour nous donner des éléments d'analyse philosophique sur ce film. On disait tout à l'heure que les personnages de ce film qui sont riches et ont énormément de temps, comme on pourrait avoir énormément d'argent quelque part, ils deviennent immortels comme dans la réalité, les gens peuvent devenir milliardaires dans la vraie vie. Mmh. Je sais qu'il y a certains philosophes qui ont beaucoup travaillé sur la thématique de la mort. Est-ce qu'il y a des penseurs qui se sont penchés aussi sur l'intérêt d'une vie illimitée, sur l'immortalité ?
Oui, effectivement, bon, l'immortalité de l'âme principalement, c'est une thématique qui est dans toute la philosophie. Depuis l'Antiquité jusqu'à des philosophies qui sont, plus récentes, il y a 200 ans, on va dire. Donc oui, la thématique de l'immortalité, elle est omniprésente dans la philosophie. Elle prend sa racine, on pourrait dire, dans l'Antiquité grecque, c'est-à-dire vous avez des auteurs, que ce soit d'ailleurs Épicure qui en parlait, même si pour Épicure, il n'y a pas d'immortalité de l'âme, puisque quand le corps meurt, l'individu meurt. Il y a d'autres auteurs, comme Platon, par exemple, qui ont pu se questionner sur l'immortalité de l'âme, sur cette envie, justement, ce désir, qu'à l'individu de se rendre immortel. Alors, non pas dans un système comme on l'a aujourd'hui dans Time Out, parce que finalement, ils n'avaient pas l'idée d'une technologie qui permettrait à l'homme de perdurer, mais il y a quand même, dans la culture grecque et dans la mythologie, là, ça va me faire penser à ça, des immortels, hein, c'est-à-dire les dieux qui boivent le nectar les rend immortels, etc., l'ambroisie. Donc bon, il y a des possibilités dans la culture grecque, dans la mythologie, d'être immortel. Mais les hommes, eux, sont mortels. Alors, partant de ce constat, des auteurs comme Platon vont se dire que l'âme est ce qui perdure. Le corps est ce qui va rester, ce qui va mourir, et l'âme va perdurer. Le problème maintenant qu'il y a, et l'enjeu qu'il y a à cela, et qui d'ailleurs ne se retrouve pas dans Time Out, c'est-à-dire Time Out, il ne parle pas vraiment de l'âme, de Dieu, de vie après la mort. Il n'y a pas vraiment cette thématique. Hein. Ils ont la crainte de la mort, parce que ceux qui sont riches, même s'ils sont éternels, ils ne sont pas indestructibles. On peut les tuer, en fait. Hein, donc, ils ont des gardes du corps. Bref, l'idée ici, c'est que qu'est-ce qui perdure ? Si l'âme perdure, selon quelle forme, sous quelle forme elle perdure et pourquoi ? L'idée de la vie après la mort chez Platon et la quête de l'immortalité est aussi une quête morale. C'est-à-dire que si dans ma vie, j'ai une vie éthique, si je me comporte bien, si je fais un travail de ma raison, que je ne recherche pas les plaisirs, justement, ce qui est tout le contraire des personnages dans le film, qui recherchent le jeu, les plaisirs, etc., la bonne nourriture. Pour Platon, si je me concentre sur la raison, sur l'échange avec les autres, le dialogue, l'intellect, et puis finalement la philosophie au sens large du terme, eh bien, je suis en train d'élever mon âme, et ça, c'est beaucoup plus important que les plaisirs du corps. Et puisque l'âme est immortelle, lorsqu'elle va se séparer du corps, pour Platon, il y a une forme d'équilibre de l'âme qui fait qu'elle va pouvoir potentiellement se réincarner. Et on a cette idée d'immortalité, en fait, chez Platon. C'est-à-dire que l'âme, elle va à un moment donné s'élever, et puis elle va finalement rechuter dans un corps humain, mais avec des qualités différentes. C'est-à-dire, si j'ai une vie morale, j'aurai une bonne réincarnation. Si j'ai une vie de plaisir, etc., je ne vais pas me réincarner ou je vais souffrir, mon âme va être déséquilibrée. Voilà. Thématique qui finalement ne semble pas être au cœur des préoccupations des personnages du film, puisque il n'y a pas de questionnement métaphysique dans ce film. Ils sont purement matérialistes, c'est-à-dire ils ne s'intéressent pas du tout à la vie après la mort. Il n'y a pas de réflexion sur Dieu, sur la religion, sur le paradis, etc. Et c'est peut-être la piste de réflexion qui n'a pas été utilisée dans ce film. Si on peut émettre une petite critique, même si c'est compliqué hein, dans un temps restreint de film d'évoquer autant de thématiques, il y en a déjà énormément. Mais c'est vrai que celle-ci manque, et ça me fait penser à une citation, hein, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et en fait, c'est totalement ce qu'illustre ce film.
Merci beaucoup Rémi, on arrive déjà à la fin de cette émission. On est très content de t'avoir reçu dans nos locaux, c'était un plaisir.
Merci.
On le rappelle que tu vulgarises aussi la philosophie sur TikTok et on peut te retrouver sur cette plateforme. Il suffit de taper l'antique 399 tout attaché. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous jeudi dans deux semaines de 14h à 14h30 pour la prochaine émission.